Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Récemment, nous avons abordé le thème « Dieu est amour ». Et aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de discussions sur le sujet « Comment le chrétien doit-il aimer à son tour ? »
Notre invité Jean-Marc va nous guider dans nos réflexions.
Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres.
Nous venons d'écouter la lecture d'un extrait de la première épître de Jean, chapitre 4, versets 7 à 11. Et à présent, nous allons nous pencher sur la question « Qu'est-ce que l'amour ?» Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Au début de cette série sur le thème de l'amour, nous allons définir ce dont nous allons parler. Car le mot « amour » peut revêtir bien des significations différentes. La définition la plus commune du mot « amour » évoque surtout la romance, le sentimental et le sexuel. Bien sûr, ces éléments ont leur place dans nos vies. Toutefois, leur accorder une importance démesurée pourrait conduire à des excès et des débordements.
Quel est donc le sens biblique du mot « amour » ?
Le Nouveau Testament est écrit en langue grecque. Or, dans cette langue, il existe plusieurs mots apportant une définition différente au mot « amour ». Nous savons par exemple que nous n'aimons pas nos enfants ou nos parents de la même manière que nous aimons notre mari ou notre femme. C'est pourquoi la langue grecque utilise un mot pour désigner l'amour que nous pouvons ressentir et exercer envers les membres de notre famille ou nos amis proches. De même, la langue grecque, pour désigner l'amour passionnel ou sexuel, emploie un autre mot bien distinct. Enfin, il existe un autre mot grec traduit par « amour » et c'est celui-ci qui nous intéresse tout particulièrement.
Et quel est-il ?
Dans la langue grecque, il s'agit du mot « agapé ». Nous le découvrons souvent dans le Nouveau Testament pour désigner l'amour de Dieu envers le chrétien. Or, ce terme exprime aussi l'amour que ce dernier doit pratiquer, amour qui doit marquer toutes ses relations humaines. C'est ce mot que nous retrouvons, par exemple, dans le texte que nous avons lu au début de cette émission. « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. »
Quelle est donc la définition précise du mot « agapé » Pouvez-vous nous la donner ?
Il désigne l'amour qui veut le bien de la personne aimée, celui qui recherche ses intérêts, parfois même aux dépens de ses propres intérêts. C'est un amour qui s'exprime essentiellement à travers des attitudes et des actes, par un engagement à accomplir le bien. Or, cet amour ne tient pas forcément compte des mérites de la personne à aimer, pas plus qu'il n'attend nécessairement quelque chose d'elle en retour. Écoutons quelques versets bibliques qui nous parlent de cet amour.
Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité.
Nous découvrons ici que cet amour s'inspire de l'exemple de Jésus-Christ.
Tout à fait. Jésus-Christ est celui qui a donné sa vie pour nous. En lisant les évangiles, nous constatons à quel point il allait toujours auprès des autres afin de répondre à leurs besoins et leur faire du bien. Bien sûr, il s'occupait avant tout de leurs besoins spirituels, mais sans négliger pour autant leurs besoins physiques et émotionnels. Jésus se rendait aussi auprès de ceux qui étaient négligés et méprisés de leurs semblables. Pensons aux personnes atteintes de la lèpre, à ceux sous l'emprise d'esprits mauvais, aux personnes corrompues et malhonnêtes, collaborant avec l'occupant romain. Or Jésus leur faisait du bien sans se soucier des commentaires des autres, sans se soucier de préserver sa propre réputation. Il ne fait pas de doute que nombre de ceux qu'il rencontrait ne semblaient pas mériter son aide. Il est aussi fort probable que la plupart, après avoir été guéris, ne pouvaient rien apporter à Jésus en retour pour le remercier. Mais Jésus ne s'arrêtait pas à cela. Il voulait, par ses œuvres, rendre gloire à Dieu.
Cette description de l'amour de Christ nous donne à réfléchir, d'autant plus qu'en tant que chrétien, nous devons nous inspirer de son exemple.
Oui, et ne l'oublions pas, Jésus, parce qu'il nous aime, s'est livré entre les mains d'hommes injustes et violents. Jésus, parce qu'il nous aime, a accepté de mourir sur une croix, sachant que seul ce sacrifice pouvait nous procurer le pardon de nos péchés auprès de Dieu et nous réconcilier avec lui. Jésus a donné sa vie pour les hommes, afin de les sauver. Il a donné sa vie afin de répondre à nos besoins les plus fondamentaux et de satisfaire nos intérêts spirituels.
Vous nous encouragez donc à suivre cet exemple d'amour, mais cela veut-il dire que nous devons être prêts à donner notre vie pour les autres ?
Je pense qu'il est relativement rare pour un chrétien de se retrouver dans une situation où sa mort pourrait sauver la vie d'autres personnes ou les protéger d'un mal quelconque. Dans certains pays, pourtant, où la violence sévit, une telle situation peut se rencontrer. Un père, par exemple, engagé dans des combats contre des bandits, peut donner sa vie afin de permettre à sa femme et à ses enfants de prendre la fuite. Toutefois, je pense que dans la plupart des cas, nous devons interpréter cette phrase « donner sa vie pour ses frères » dans un sens plus large.
Quelle signification apporteriez-vous alors ?
Je pense qu'il s'agit d'une attitude qui doit être la nôtre au quotidien. C'est-à-dire que nous devons être attentifs aux besoins qui se présentent à nous. Nous devons être disposés à y répondre par des gestes d'amour concrets et pratiques. Nous devons être prêts à nous donner aux autres en temps opportun.
Mais il existe tant de besoins autour de nous. Comment pouvons-nous espérer y répondre ? Ne risquons-nous pas de tomber dans l'épuisement à force de se donner ?
Nous reviendrons sur cette question dans une émission future. Nous devons chercher à faire ce que nous pouvons raisonnablement accomplir avec les capacités que le Seigneur nous accorde. Nous ne pouvons pas, comme vous le dites, porter les soucis du monde entier sur nos épaules.
Merci Jean-Marc pour vos réponses. Quelles autres questions ou sujets allons-nous aborder tout au long de cette série ?
Le thème de l'amour touche toutes nos relations humaines. Aussi, nous allons aborder les questions suivantes. Comment aimer Dieu ? Comment aimer notre mari et notre femme ? Comment aimer nos enfants ? Comment aimer notre prochain ? Comment aimer nos ennemis ? Comment aimer nos frères et sœurs de l'Église ? Nous parlerons aussi de l'amour que nous pouvons manifester envers notre prochain dans le contexte de la pandémie du sida.
Merci Jean-Marc, cela me paraît fort intéressant. Nous espérons donc, chers amis auditeurs, vous retrouver la prochaine fois.
Parce que nous venons de parler de l'amour du chrétien, nous voulons à présent méditer sur l'amour de Dieu.
Ainsi, tout au long de cette série, nos méditations bibliques porteront sur les images de l'Ancien Testament donnant un aperçu de cet amour. Écoutons pour cela les paroles du prophète Osée, chapitre 2, versets 16 à 18. Ensuite, Alain nous fera part de quelques réflexions sur ce texte.
C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan et la vallée d'Accor deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte.
À travers ce texte lu, l'Éternel se présente comme un mari délaissé, abandonné de sa femme. Elle l'a rejetée, méprisée, elle est partie de la maison à la recherche de plaisirs immoraux. Elle a commis l'adultère. Mes chers amis, comment réagiriez-vous confronté à une telle situation ? Auriez-vous le cœur brisé et désespéré ? Vous mettriez-vous en colère et partiriez-vous pour exercer vengeance ? Resteriez-vous à la maison rongé par le ressentiment ou la résignation? Ou bien, comme l'évoque le prophète, partiriez-vous pour reconquérir votre femme, votre mari? Chercheriez-vous à rallumer la flamme qui a alimenté son premier amour pour vous, afin de regagner sa confiance et sa fidélité, son attention et son affection? Avouons-le, il serait difficile de tout pardonner à une telle personne. Il serait difficile de se réconcilier avec une telle personne, et encore plus difficile de ressentir un amour véritable et sincère à son égard. Vraiment, les blessures causées par l'infidélité sont difficiles à surmonter. Et pourtant, le prophète affirme que l'Éternel agit avec amour et fidélité envers son peuple, même si celui-ci se montre infidèle. Dans le contexte des versets lus, ce peuple est le peuple d'Israël. L'Éternel lui a prouvé son amour en le libérant de l'esclavage en Égypte. L'Éternel s'est engagé à demeurer son Dieu. Il a conclu avec lui une alliance exprimée à travers des promesses sûres et certaines, qui prouvent toute la grâce et la bonté d'un Dieu fidèle et miséricordieux. L'Éternel a aussi déployé envers son peuple un amour véritable, en le protégeant de bien des dangers. Il a déployé envers lui un amour fort, vrai et insondable, en pourvoyant à tous ses besoins selon ses promesses. Et pourtant, ce peuple s'est comporté envers l'Éternel comme la femme adultère évoquée tout à l'heure. Au lieu de rester fidèle à son Dieu, ce peuple s'est prostitué sur le plan spirituel en s'adonnant à des idoles, en tombant dans l'inconduite et l'immoralité, en pratiquant l'injustice. Cependant, l'amour de Dieu envers lui est demeuré le même, car malgré son éloignement du Seigneur, l'Éternel désire le rappeler à lui. Par amour pour lui, il désire le reconquérir en déployant toute sa tendresse, toute sa compassion envers lui. Il désire le regagner en lui offrant son pardon, en lui assurant qu'il sera plus heureux avec lui. Cher ami, avez-vous tourné le dos à l'Éternel? L'avez-vous rejeté dans l'espoir de faire votre vie loin de lui et de trouver votre bonheur dans ce monde méchant? Alors, aujourd'hui encore, l'Éternel s'adresse à vous pour vous dire « Je t'aime et je t'assure, avec moi tu seras plus heureux ». Aujourd'hui encore, l'Éternel repousse le jour du châtiment, car il désire déployer tout son amour pour vous gagner, pour gagner votre confiance et vous offrir le vrai bonheur.
Merci Alain pour ce merveilleux rappel. Il est vrai que nous pouvons trouver une certaine satisfaction dans les choses du monde, mais aucune d'entre elles n'égalera en rien l'amour trouvé auprès de Dieu. C'est pourquoi n'abandonnons pas l'Éternel. Mais si cela vous arrivait, il sera prêt à vous accueillir de nouveau, les bras ouverts, vous pardonnant toutes vos fautes.
Nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. Nos deux séries sur l'amour se poursuivront et nous nous poserons notamment la question « Comment aimer Dieu ?»
Merci de votre écoute. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.